Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflits. Nous allons parler cette semaine de la guerre au Moyen-Âge. Pour cela, je reçois Gilles Abret. Bonjour, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes colonel de l'armée de terre, breveté de l'école de guerre. Vous avez eu plusieurs postes d'opération et vous êtes également l'auteur d'un certain nombre d'ouvrages consacrés à l'histoire militaire, dont en 2017 « Les sept péchés capitaux du chef militaire ». Et vous venez de publier aux éditions Pierre de Taillac « Le Moyen-Âge en sept batailles ». Alors nos auditeurs commencent à connaître les éditions Pierre de Taillac puisque nous avons consacré plusieurs émissions à leurs ouvrages. Et c'est toujours l'occasion de parler de cette très belle maison d'édition qui fait des ouvrages qui sont magnifiques autant sur le fond que dans la forme. Et ce Moyen-Âge en sept batailles n'échappe pas à la règle parce qu'il est très très bien illustré. C'est un format un peu carré, enfin un carré un peu allongé, extrêmement bien illustré avec de très belles photos des gouaches également. On a des photos d'armes, on voit des casques, on voit des épées, des cartes qui permettent de situer ces batailles. Donc c'est un magnifique ouvrage pour tous ceux qui aiment l'histoire militaire à offrir et à s'offrir. Mais nous allons parler donc de cette guerre au Moyen-Âge. Alors vous avez sélectionné sept batailles. On va y revenir. Toutes, d'ailleurs, ne sont pas situées en Europe. Il y a notamment une bataille avec Genghis Khan, et puis d'autres qui sont situées dans les États latins d'Orient. Mais peut-être, pour commencer cette émission, quelques éléments sur la guerre au Moyen-Âge. Alors, le Moyen-Âge, c'est long, ça dure 1000 ans. Donc, évidemment, entre le début et la fin, on ne fait pas la guerre de la même façon. Mais justement, est-ce que aussi bien dans les équipements que dans la manière de conduire la guerre, dans la tactique, quelles sont les évolutions notables de la guerre à l'époque médiévale?
Alors vous partez d'un postulat qui est particulièrement juste. En effet, le Moyen-Âge couvre une période relativement longue, grosso modo un millier d'années, puisque les historiens s'accordent de manière un peu artificielle à fixer la période du Moyen-Âge entre la chute de Rome en 476, donc avec la déposition du dernier empereur, Romulus Augustule, et l'année 1453. Certains historiens l'amènent jusqu'à 1492, la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb, mais 1453 qui est une date un peu charnière puisqu'elle voit la disparition de l'Empire byzantin avec la chute de Constantinople, mais aussi la fin de la guerre de Cent Ans avec la bataille de Castillon. Donc, comme vous le faites remarquer très justement, 1000 ans, cela veut dire que très concrètement, nous n'avons pas une période totalement homogène en matière de tactique, de technologie et d'art de la guerre, mais plutôt une période qui évolue progressivement. Alors, tout d'abord, si vous le permettez, même si, comme je vous le disais, nous partons de la chute de Rome et de l'Empire romain, il faut savoir que l'art de la guerre évolue très progressivement, déjà dès le IIe siècle après Jésus-Christ, puisque face aux invasions barbares, progressives tout d'abord et puis ensuite sur l'ensemble des frontières nord et est de l'Empire romain, les empereurs adaptent leur système militaire en lui donnant plus de mobilité. Édouard Lubac le présente parfaitement bien dans la grande stratégie de l'Empire romain, avec, de manière un peu caricaturale, mais je crois c'est juste, une armée romaine qui se détache de son centrage autour d'une infanterie particulièrement organisée, c'est la fameuse Légion romaine, pour intégrer de plus en plus d'unités de cavalerie, souvent formées par des peuples barbares qui s'intègrent d'ailleurs souvent assez bien aux marges de l'Empire. Donc le début du Moyen-Âge, c'est l'aboutissement de cette transformation des armées, d'une armée organisée autour de l'infanterie à des armées organisées autour de la cavalerie, principalement au départ de la cavalerie légère, même si la cavalerie lourde existe déjà depuis bien longtemps. Nous penserons aux cataphractaires partes qui ont participé à la destruction de l'armée romaine lors de la bataille de Carre, mais au début plutôt une armée, une cavalerie légère qui petit à petit, pour consolider son effet de choc, devient plus massive, plus lourde, et prend une place particulière sur les champs de bataille, mais pas uniquement, parce que cette cavalerie, ce chevalier du Moyen-Âge, qui est une lecture assez partagée d'ailleurs sur l'ensemble de l'Europe occidentale, il a, au-delà de sa vocation militaire, aussi une vocation sociale, puisque la société médiévale est architecturée autour du chevalier, de la chevalerie, mais aussi un rôle religieux, puisque le chevalier un certain nombre de responsabilités en ce sens.
Le chevalier, il n'est pas tout seul sur son cheval, il a des hommes autour de lui qui préparent le cheval d'une part, qui préparent les armes, lui-même d'ailleurs a plusieurs chevaux aussi, entre cheval de combat et cheval de transport, donc il y a un système autour du chevalier, c'est quoi, c'est 5-6 hommes au moins
C'est au minimum 5-6 hommes. Sachant que, vous le soulignez fort justement, c'est un système qui est articulé autour d'un homme, le chevalier, et c'est un système qui est extrêmement coûteux. Et donc, ce qui explique que, notamment au début du Moyen-Âge, mais si on y regarde bien, c'est un peu une constante, les grandes batailles sont extrêmement rares, parce que le chevalier coûte cher à entretenir, cher à entraîner, il a un positionnement particulier dans la société. Et donc, il revient de ne l'engager que sur des actions très particulières. Mais le chevalier n'est pas tout à fait seul à bien y regarder. Il y a toujours une infanterie qui, même si elle est moins structurée que pendant la période médiévale, a quand même sa place sur les champs de bataille. Nous avons tous en tête l'image des combattants vikings, francs, des milices suisses. Des milices italiennes qui s'opposent à Legnano, à Frédéric Barberousse, mais l'infanterie ne devient, sauf que dans des cas particuliers liés à l'utilisation du terrain, qu'une force d'appoint. Voilà. Et c'est très progressivement que un troisième acteur tactique apparaît, ou en tout cas prend une dimension particulière, c'est cet acteur qui traite son adversaire à distance, c'est l'archer, qui de petit à petit devient l'arbre à l'étrier. Tout le monde connaît très très bien cet épisode de la bataille de Crécy entre l'archer gallois, ses longbows, l'arbre à l'étrier, dont certaines cités, notamment Gênes, s'étaient fait une spécialité, pour aboutir en fin de Moyen-Âge à l'apparition de la poudre, des armes à distance, des canons qui remettent fondamentalement en cause, en particulier, la place de la chevalerie.
Donc ce qui modifie aussi la guerre et la manière de faire la guerre, ce sont les évolutions techniques, et forcément ça a une influence sur la stratégie, évidemment qu'on ne fait pas la guerre de la même manière quand il y a des canons en face, comme à Castillon de la bataille, lorsqu'il n'y en a pas, comme la bataille d'Athines. D'ailleurs, c'est un trait propre à la guerre, quelles que soient les périodes, de voir que celle-ci est modifiée par la technologie, par l'apparition des nouvelles armes.
Absolument. Dans l'apport de la technologie, en fait, on a deux périodes, et on peut dire que même aujourd'hui, nous sommes toujours sur ce cycle. Il y a l'apparition technique de l'objet, c'est-à-dire la mise à disposition de l'objet, et ensuite, il y a l'appropriation de cet objet. Ce qui explique que si le canon apparaît progressivement en Europe, on se souvient tous des trois bombardes utilisés à Crécy, qui font d'ailleurs beaucoup plus de bruit que d'effet dans les rangs français, l'appropriation de cette technologie, l'intégration, celle de la deuxième étape dans la tactique, fait que, notamment lors de la bataille de Castillon, les rangs anglais de John Talbot sont décimés par une artillerie particulièrement puissante, mais utilisée avec beaucoup de pertinence tactique, puisque l'ensemble du dispositif français vise à concentrer la charge de cavalerie anglaise dans un espace extrêmement réduit, et cette cavalerie anglaise, puis à l'issue des fantassins, sont taillés en pièces par l'artillerie mise en place par les frères Bureau, Jean et Gaspard, qui ont progressivement doté l'armée royale. Donc, la technologie qui apparaît sur le champ de bataille, dont on ne sait pas trop encore tirer tous les fruits et tous les bénéfices, et puis il y a un moment où la technologie a un impact majeur sur l'art de la guerre.
Et notamment dans cette technologie, il y a le travail du fer, le travail de l'acier. Alors, dans votre ouvrage, la guerre au Moyen-Âge en sept batailles, vous avez mis des photos, notamment des épées, des croisées, des sabres. Là aussi, il faut que l'acier soit résistant, qu'il soit pas trop lourd pour bien le manier. Une épée pèse à peu près 1,5 kg.
C'est ça.
Ce qui est quand même déjà un bon poids quand on l'a au bout de la main et qu'on s'en sert toute la journée. Mais donc, léger, résistant, donc il peut aussi y avoir une supériorité stratégique, militaire, par le type d'acier qu'on utilise. Pareil pour les armures, là aussi, il faut un acier résistant et pas trop lourd non plus.
Absolument, je crois que s'il y a un domaine dans lequel l'homme s'adapte particulièrement vite, c'est celui de la guerre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où, sur le champ de bataille, l'un ou l'autre des acteurs soit identifie un point de supériorité de l'adversaire, son bouclier, son sabre, son épée, la distance à laquelle il peut traiter son adversaire avec l'archerie ou l'arbalétrie, la portée des traits, eh bien soit il s'approprie les moyens de son adversaire, soit il tire des enseignements sur la fragilité de son propre outil pour le perfectionner. Et ce qui est très intéressant sur cette période du Moyen-Âge, c'est d'identifier les transferts technologiques assez étonnants entre les différentes civilisations qui expliquent que les premiers ajustements sur l'acier qui sont découverts et mis en place notamment dans le monde arabo-musulman, assez rapidement sont pris en compte et adaptés par l'Occident, en particulier lorsqu'on analyse l'évolution des épées des chevaliers occidentaux, on voit un transfert de technologie qui part de l'Italie et de l'Espagne pour progressivement se développer dans le nord de l'Europe.
On n'a rien inventé, quoi, aujourd'hui,
exactement,
au XXe siècle. Dans votre ouvrage, il y a une citation, vous mettez une citation du maréchal Foch que j'aime beaucoup, parce que elle s'applique à l'ère militaire, mais elle peut aussi s'appliquer dans bien d'autres domaines, que ce soit politique ou économique. Voilà ce que dit le maréchal Foch. « J'aime mieux une armée de moutons commandée par un lion qu'une armée de lions commandée par un âne. » C'est assez bien vu de la part de Foch. Et ça montre aussi l'importance du commandement. Dans votre ouvrage, vous citez un certain nombre de commandements. Vous avez cité notamment Talbot, chez les Anglais, qui a fini par perdre, il a été quelqu'un de remarquable. Donc la guerre, forcément, a aussi des généraux, des commandants, donc des gens qui savent à la fois diriger des hommes et qui ont une compréhension du terrain, de l'ennemi, de la manière dont on manœuvre son armée et dont on va manœuvrer la partie adverse également.
Je crois que s'il y a une permanence dans l'histoire militaire, je dirais presque dans l'histoire de toutes les sciences sociales, c'est la difficulté pour un chef, pour quelqu'un qui est mis en responsabilité, à non seulement évaluer son environnement, évaluer la place de son action dans un environnement plus général, et surtout à s'approprier les conditions lors de l'action, les conditions de nature à lui faire gagner ou perdre, dans ce cas-là, la bataille. Alors on a plusieurs moyens pour cela. Le chef peut en particulier se former à l'histoire militaire, si ce n'est que l'histoire militaire offre un certain nombre d'exemples dans des conditions très particulières, mais n'offre pas de recettes. D'ailleurs, à bien y regarder, y compris dans la formation aujourd'hui de nos officiers, il ne s'agit jamais de présenter des recettes toutes faites ou de partir de systèmes qui ont fonctionné pour en tirer une portée définitive. Vous citiez le cas du chef militaire John Talbot qui a été un grand chef militaire anglais. D'ailleurs, il meurt à la bataille de Castillon en 75 ans, c'est-à-dire que ça fait plus d'une cinquantaine d'années qu'il se bat sur tous les champs de bataille, notamment français. Il a remporté un certain nombre de victoires, donc c'est quelqu'un qui est expérimenté. quelqu'un qui connaît ces unités, qui sait manœuvrer, et mais cela n'est pas suffisant. Cela n'est pas suffisant. On se rappelle tous cette phrase que je cite de mémoire d'un de nos grands chefs militaires, au général Jean Garnier, qui pensait pouvoir parler doctement de la science de la guerre parce qu'il sortait de 6 ans d'opération. Et ce grand chef, je crois que c'est le maréchal Bugeaud, lui dit, lui rétorque que le mulet du maréchal de Saxe, ça fait plus de 20 campagnes, et il n'en est jamais resté qu'un mulet. Voilà, donc l'expérience est utile, on peut tirer un certain nombre d'enseignements, on peut réfléchir aux apports de la technologie, mais chaque bataille est nouvelle, chaque situation est nouvelle, et la formation du chef, ou en tout cas son action, vise à intégrer l'ensemble des données autant qu'on le peut, puisque l'action militaire et toutes les autres actions d'ailleurs comportent une grande part d'incertitude, et de pouvoir juger en toute connaissance de cause à partir d'un certain nombre de principes qui existent, comme dans toute science, et puis ensuite intégrer la contingence du moment.
Ce qui est intéressant aussi dans cette période médiévale, c'est de voir qu'on a encore des batailles, enfin, l'importance de la bataille aujourd'hui, la guerre n'est plus vraiment sous forme de bataille. Alors, dans les deux conflits mondiaux, qui sont une série de combats pendant plusieurs années, mais on a l'impression que l'aspect décisif de la bataille a disparu à la fin de l'époque moderne, peut-être avec la guerre napoléonienne, et encore, même Napoléon a gagné beaucoup de batailles, mais il a perdu la guerre finalement. À l'époque médiévale, il y a encore cet aspect important de la bataille qui peut emporter une décision et qui peut avoir des conséquences politiques importantes.
Alors, vous abordez la question de la bataille décisive qui est un débat qui a toujours cours entre historiens. Mon sentiment est que la bataille décisive, si on reprend les termes mêmes, décisif, c'est qui amène à une décision finale ou en tout cas à une forme de stabilisation de la situation. Je crois qu'il existe véritablement des batailles décisives. Waterloo est une bataille décisive. Décisive par rapport à l'ambition napoléonienne. Je pense que forcément la bataille de Berlin est une bataille décisive en 1945. On a un certain nombre de batailles décisives qui clôt un épisode guerrier et puis qui structure les relations géopolitiques pendant une certaine période. Pour autant, ce qui est très vrai dans une lecture clausewitzienne de la guerre entre des États, entre des structures bien identifiées, est sans doute moins vrai dans le cas des opérations de contre-insurrection ou de la lutte contre le terrorisme, puisque l'action s'établit en effet dans la durée. Et l'ennemi ne correspond pas à une structure particulière, ne se rattache pas à un État, mais est beaucoup plus complexe à appréhender.
Autre aspect de cette bataille, c'est la capacité aussi. Enfin, vous évoquez dans votre ouvrage des batailles menées par des États essentiellement, sauf peut-être la bataille d'Attine qui est un peu différente. On va y revenir. Mais on a des batailles menées par des grands féodaux, notamment en France. Donc on va dire n'importe quel féodal un peu puissant est capable d'avoir une armée qui peut rivaliser avec un roi et donc contrôler son territoire. Donc finalement la guerre est plus facile peut-être à cette époque-là. En tout cas, il y a une capacité à mobiliser, à faire la guerre assez aisément.
Alors j'aurais tendance à vous dire oui et non. Oui, dans le sens où la décision d'entrer en guerre ou de clôturer une guerre est aisée puisqu'elle est le propre d'un chef, d'une autorité, d'un duc ou d'un roi, donc d'une structure politique et sociale articulée autour d'une prise de décision unique. Donc le fait d'entrer en conflit est une décision d'abord de l'autorité, l'autorité unique. Alors pourquoi je me permets de peut-être de un peu de minorer ce propos? Et l'étude de la guerre au Moyen-Âge le démontre assez facilement, c'est que cette guerre s'inscrit dans un cadre socio-économique particulier. Le chevalier, nous le disions, coûte cher à entretenir, donc les campagnes de plusieurs années sont difficiles à envisager. la piétaille, c'est-à-dire l'infanterie et les archers propres aux milices, sont facilement mobilisables dans la partie urbaine, quoique, mais dans la partie rurale, bien évidemment, cette disponibilité est liée avec le propre du métier des champs. Et au final, si on regarde bien, nous avons un certain nombre, et c'est très vrai, je dirais presque jusqu'au XVIIIe siècle, les combats et les guerres, si possible, les dirigeants essayent qu'elles soient limitées en durée, qu'elles soient aussi limitées dans leurs effets, et notamment dans leurs coûts financiers. Donc on voit apparaître beaucoup de petits combats, mais rarement de grandes batailles décisives.
Alors on va en évoquer justement quelques-unes, et on va commencer par une bataille qui ne dira peut-être pas grand-chose à nos auditeurs, sauf s'ils sont très au fait de l'histoire militaire et de l'histoire de l'Asie. Nous sommes le 31 mai 1223 dans les steppes asiatiques, cette vaste région de l'Eurasie que l'on aime bien étudier en géopolitique. Et c'est la bataille de la Kalka, qui est le nom d'une rivière. Il y a beaucoup de rivières qui ont des noms de bataille. C'est un peu comme la Bérézina aussi. Et cette bataille autour d'une rivière voit s'opposer des troupes mongoles. Alors dans votre ouvrage, on a une très belle estampe du XIVe siècle où l'on voit des cavaliers archers mongols poursuivant des ennemis. Il faut vraiment insister sur la magnifique illustration de l'ouvrage. Et l'ouvrage est aussi intéressant pour cela. Vous avez mis également un très beau tableau peut-être d'époque un peu plus récente, celui du 19e, où l'on voit ces batailles aussi entre les archers et les cavaliers autour de la rivière de la Kalka. Alors, que s'est-il passé ce 31 mai 1223 et en quoi cette bataille est-elle si importante qu'elle mérite de figurer dans un ouvrage consacré aux batailles médiévales?
Alors, cette bataille m'a beaucoup intéressé à plusieurs titres. Alors, tout d'abord, replaçons-nous un peu dans l'environnement géopolitique de cette époque. Nous sommes au moment où Gengis Khan réussit à fédérer les tribus mongoles et lance au travers du monde asiatique et bien au-delà ses armées pour étendre largement son territoire et développe un système militaire extrêmement bien organisé, extrêmement discipliné, avec des chefs fidèles et qui exécutent avec beaucoup d'intelligence les missions qui leur sont confiées d'extension de cet empire. Donc progressivement, cet empire mongol s'étend, principalement vers l'ouest dans un premier temps, et se retrouve bien évidemment en contact avec des tribus et des peuples occidentalisés, et bien évidemment au-delà des frottements avec le régime des Abbassides au Moyen-Orient, des armées sont lancées directement vers l'ouest, vers l'Empire russe et les premiers peuplements occidentalisé. Et ce qui est très très intéressant sur cette bataille, c'est que à ce moment, une armée commandée par un général de Gengis Khan, Subotai, arrive en contact d'abord dans le Caucase, puis avec des premiers peuples qui sont alliés aux cités russes. Et le premier temps, c'est un contact, bien évidemment, mais un contact visant à assujettir ces peuples. Et les cités russes, les duchés russes, décident d'aider des alliés, les Polovs, à contenir ce flux de Mongols. Rapidement, une armée est mise en place, et lorsque les premières unités mongoles, les premières reconnaissances mongoles sont en contact avec les Russes, eh bien, ces unités russes et leurs alliés sont d'un volume environ de 80 000 hommes. Voilà. Articulés principalement autour d'une cavalerie lourde, et par le jeu des alliances, les Russes décident de repousser cette invasion qui est estimée à une vingtaine de milliers de Mongols. 80 000, 20 000 Mongols Donc, d'aucuns peuvent imaginer que la situation va se résoudre assez rapidement.
C'est pas facile, on peut supposer. Ils sont quatre fois plus nombreux.
Voilà. Et les premiers contacts avec les Mongols, dont on peut imaginer que ça fait partie aussi de leur tactique, sont très favorables aux Russes. Et donc, le prince russe qui commande cette armée multiple, Mislav, prince de Galicie, décide de continuer, puisqu'il sent qu'il n'a détruit que des petits détachements, il continue. Et les Mongols les attirent progressivement jusqu'au nord de la mer d'Azov, et attirent donc ces princes russes bien loin de leur ligne logistique, de leur cité. Et ces princes russes se font, attirer sans se rendre compte que petit à petit, ils se mettent en place un piège, une gigantesque embuscade conduite par ces Mongols qui ont bien compris que les forces ennemies sont quatre fois supérieures aux leurs, mais vont utiliser extrêmement intelligemment le terrain. On sait qu'en matière de tactique, il y a un moment qui est extrêmement sensible, qui rend une armée fragile, c'est le franchissement de ce qu'on appelle une coupure, d'une rivière, d'un fleuve, voire éventuellement, on peut l'étendre à une montagne, qui fait que mécaniquement l'armée est coupée en deux. Et donc ce que fait très intelligemment Subotai, c'est qu'à un moment, il met en place son armée, enfin, donc les Russes disent « ça y est, nous avons affaire à notre ennemi », ils engagent leurs forces, qui franchit la rivière du Kalka, si ce n'est que face à eux, les Mongols, au lieu de jouer avec leurs archers, de se replier comme le font souvent les unités nomades, là engagent leur infanterie lourde. Et l'avant-garde russe, Polot et Kouman, est anéantie, battent en retraite, bien évidemment les renforts arrivent au même moment, tout le monde se retrouve entre... ceux qui battent en retraite paniqués, ceux qui viennent les renforcer se retrouvent grosso modo autour de la rivière ou au milieu de la rivière, et progressivement les Mongols détruisent les éléments les uns après les autres jusqu'à l'armée de Mislav lui-même qui s'est réfugié dans un cercle de chariots qui est assiégé donc pendant 3 jours et qui va se rendre, et l'ensemble de ces soldats et lui-même vont être massacrés. Donc ce qui est très intéressant, c'est d'une part une manœuvre de niveau entre guillemets opérative, c'est-à-dire les Mongols qui attirent les princes russes et leurs alliés loin de leur base, très intelligemment, sans que ces princes russes ne se rendent compte qu'ils sont en train de tomber dans un piège, et ensuite d'un point de vue plus tactique sur le champ de bataille, face à un ennemi quatre fois plus nombreux, l'intelligence de détruire son ennemi petit morceau par petit morceau, de sorte que le rapport de force global redevienne favorable.
Alors on va évoquer la bataille d'Atine, mais avant, Gilles Albret, est-ce que étudier l'histoire militaire, ça peut être utile pour des militaires aujourd'hui, enfin, au-delà des connaissances et du plaisir qu'on a à avoir des connaissances historiques, mais est-ce que dans la manière dont on fait la guerre aujourd'hui, connaître la bataille de la Kalka, connaître la bataille d'Atine, est-ce que ça peut être une source d'inspiration et de manière de mener le combat aussi quand on est au Mali, quand on est en Libye par exemple, ou sur d'autres théâtres d'opérations sur lesquels l'armée française est intervenue?
En fait, c'est extrêmement précieux, et depuis quelques années, en particulier l'armée de terre, a redécouvert toute la richesse de l'histoire militaire. Alors pourquoi ? L'histoire militaire, on peut la lire de deux manières. Soit on peut la lire comme une histoire, partant du postulat qu'elle ne se reproduira pas, puisque l'armement n'est pas le même, les conditions ne sont pas les mêmes, bien évidemment. Donc en ce sens, elle peut nous aider, mais pas tellement d'un point de vue professionnel. En revanche, là où c'est intéressant, c'est que lorsqu'on dépasse uniquement ce cadre de l'histoire dans le sens premier du terme, de récit, pour rentrer dans l'analyse de la bataille, des campagnes, des opérations qui sont conduites. Et le but, à chaque fois, c'est d'essayer d'analyser à quel moment, dans le cas des victoires ou des défaites, à quel moment, dans la décision du chef, dans l'organisation et dans l'emploi des capacités, je dirais que la situation bascule et l'attaquant ou le défenseur prend l'initiative puis l'ascendant. Ce que l'on constate à l'analyse, souvent, c'est que, et c'est le cas notamment dans les défaites, dans l'analyse des défaites, on n'a jamais de grosses erreurs majeures. Sachant qu'il ne faut jamais oublier que beaucoup d'éléments sont très faciles à juger a posteriori, mais souvent les chefs qui décident ne les ont pas à ce moment-là. Parce qu'ils n'ont pas le plan de bataille de l'ennemi, beaucoup de choses leur échappent. Mais on se rend compte qu'il n'y a pas forcément de feu rouge, des grosses erreurs qui sont conduites. C'est souvent une multitude de petits éléments qui, mis bout à bout, créent les conditions de l'échec. Et dans le cadre notamment de la formation de nos officiers brevetés, ce qui est important dans l'histoire militaire, c'est d'identifier, de faire un arrêt sur image ponctuel, phase après phase, de dire, je prends le cas de la Kalka, voilà, à un certain moment, les chefs russes, les princes russes, décident de poursuivre ou de courir derrière les Mongols et donc étendre leur ligne de communication de ravitaillement. Là, à ce moment-là, il faut que l'on se pose la question de savoir si c'est pertinent, non pertinent. Est-ce que il y a un risque logistique? Est-ce qu'il y a un risque en matière de réserve, de renforcement, etc. Et donc, dans nos opérations d'aujourd'hui, lorsque vous menez une opération au Mali, vous pouvez être mis dans cette situation de poursuivre un ennemi. Est-ce que vous avez toujours cette ligne logistique? Est-ce que vous avez toujours cette ligne santé? Est-ce que vous êtes sûr d'être toujours garanti d'un appui aérien? Voilà. Donc, il s'agit au moins que vous puissiez vous poser des questions parce que l'histoire nous a montré qu'à un certain nombre de moments, soit la question n'a pas été posée, soit un chef militaire y a répondu, mais sans doute de manière peu pertinente.
Alors, justement, une bataille qui là a été un désastre, enfin, du moins pour une partie, pour les croisés, les templiers, la bataille d'Attin, 4 juillet 1187, ça fait quasiment un siècle que les croisés sont installés dans les États latins d'Orient. Il y a eu la prise de Jérusalem et on a une situation qui a beaucoup évolué. Saladin qui est en train de relancer la conquête arabe, des États qui tiennent de moins en moins et qui en plus manquent de renforts venant de l'Europe. L'idée de croisade est en train un petit peu de s'étioler en Europe. Et les Templiers, qui sont en ordre particulier, puisque c'est un ordre religieux combattant, donc on a des gens qui sont à la fois des moines et des chevaliers, et qui sont complètement moines et complètement chevaliers, ils sont vaincus, écrasés au cours de cette bataille. Ça a d'ailleurs été, ça sonnait un petit peu le glas aussi des Templiers comme chevaliers performants, enfin, sauf qu'après on les a aussi un peu retrouvés en Espagne, enfin du moins sur le front oriental. Et là, que vous venez d'expliquer, cette petite série d'erreurs qui amène à une défaite finale. Côté Templier, on le voit dès le début, il y a eu une mauvaise appréciation de la situation, un peu d'orgueil aussi chez les chefs qui ont lancé une bataille qu'ils n'auraient jamais dû lancer, et on aboutit à une catastrophe.
Alors, bataille, là encore une fois, vous avez tout à fait raison, extrêmement intéressante, et vous en avez parfaitement bien défini le cadre général. Lorsque, à la fin des années 1180, début des années 1180, fin des années 1170, début des années 1180, Saladin réussit enfin à fédérer la Syrie et l'Égypte autour d'une vraie ambition arabe à destination des empires latins. Chaque chef militaire franc des États latins sent bien que l'environnement a évolué. L'environnement a évolué, notamment le rapport de force global a évolué, parce que si les francs ont pu s'appuyer d'un point de vue géopolitique sur des affrontements entre les différentes tendances des princes musulmans, cette fois-ci ils ne peuvent plus s'appuyer sur ce phénomène, et d'un point de vue tactique, si le chevalier franc a toujours dominé les champs de bataille, on sent bien, et notamment juste avant la bataille d'Attin avec les combats de la fontaine de Cresson, que si les musulmans, les sarrasins ont pu être surpris à un moment par cet effet du choc du chevalier franc, ils ont mis en place des systèmes tactiques de nature à compenser cette situation. Alors, en 1187, les États latins sentent bien que soit ils doivent établir un nouveau système de relations diplomatiques avec Saladin, soit il faut qu'ils renversent la situation, peut-être au travers de ce qu'ils espèrent être une bataille décisive. Voilà, ils savent que Saladin a regroupé une armée extrêmement forte, d'aucuns disent de 80 à 100 000 hommes, une armée puissante qui, si elle fond sur les États latins, ne laissera aucun doute sur le résultat des combats. Donc Guy de Lusignan, sans doute par orgueil, c'est vrai, mais avec la volonté de marquer tactiquement et politiquement la situation, décide lui-même de regrouper ses troupes, et puis donc une quinzaine de milliers d'hommes avec des mercenaires turcopoles, donc c'est-à-dire des musulmans qui servent dans les armées latines, et d'affronter Saladin en direction du lac de Tibériade, puisqu'il sait que la cité est assiégée. Donc ce souhait de reprendre l'initiative a du sens, si ce n'est que d'un point de vue tactique, la manière dont cela est conduit n'a pas de sens. Le comte de Tripoli, d'ailleurs, dans les sources que j'ai pu consulter, dit bien Guy de Lusignan que le fait d'aller jusqu'au lac de Tibériade, c'est très bien, mais nous sommes au mois de juillet, bien évidemment, chacun connaît le climat dans cette région du monde, et donc il préconise d'aller de source ou de point d'eau en point d'eau, et de ne pas aller directement et au plus vite vers Tibériade. Guy de Lusignan se replie sur cette décision, et puis à un moment, parce qu'un certain nombre de conseillers, dont Renaud de Châtillon, l'engagent à aller le plus vite possible sur le lac de Tibériade, eh bien, décide de prendre la voie la plus courte, qui n'est pas celle des points d'eau. Et puis arrive ce que vous avez décrit. Tout d'abord, cette colonne extrêmement longue rentre dans une forme de nasse. Les gens sont assoiffés. D'ailleurs, au matin de la bataille, après avoir été harcelés toute la nuit, les combattants musulmans brûlent des broussailles pour donner encore plus ce sentiment de soif et puis de canalisation des chevaliers. Et puis, à un moment, ils attaquent de toutes parts sur un terrain qui ne permet pas justement les charges de cavalerie, c'est-à-dire le point fort du combattant franc. Et il arrive ce qui doit arriver, même si le comte de Tripoli réussit à s'enfuir par le nord-est, à rejoindre ses états, et d'ailleurs il prendra soin de ne pas revenir pour aider Guy de Lusignan. Les combats s'établissent petit à petit par petits paquets, et là, bien évidemment, le nombre de combattants supplée la qualité. Et c'est notamment à cette occasion, contrairement à ce qu'on voit dans le film de Ridley Scott, Kingdom of Heaven, Balian d'Iblin lui-même réussit à s'enfuir vers l'ouest, et Guy de Lusignan est fait prisonnier avec Renaud de Châtillon, avec un certain nombre de prisonniers, de chevaliers, notamment hospitaliers, qui sont passés par le fil de l'épée, au même titre d'ailleurs que les combattants turcopoles.
Alors on va terminer par une dernière bataille, qui est une victoire pour les Français, parce que dans la guerre de 100 ans, on parle souvent d'Azincourt et de Crécy, et on oublie quand même que ce sont les Français qui ont fini par gagner la guerre de 100 ans. Alors il y a eu des victoires de Jeanne d'Arc en 1420, notamment la bataille de Patay, mais cette bataille qui clôt d'ailleurs le Moyen-Âge, où on l'a dit en début de l'émission, l'époque médiévale, on peut très bien l'arrêter en 1453, c'est à la fois la prise de Constantinople par les Turcs, mais c'est aussi la bataille de Castillon. Alors là, nous sommes au nord de Bordeaux, maintenant on y fait du vin, il y a même des coteaux de Castillon où on peut boire le vin de Bordeaux de la région, et les Français font usage d'une artillerie, avec notamment des canons. C'est pas la première bataille, enfin il y a un débat sur si c'est la première bataille ou des canons ou pas, mais en tout cas ils font usage de canons, et pour une fois la cavalerie française prend sa revanche et gagne contre les armées anglaises. Alors d'ailleurs, dans votre ouvrage, on a là aussi une illustration où on voit la mort de John Talbot à la bataille de Castillon, et les troupes françaises avec l'étendard la fleur de lys dorée sur fond d'azur, et puis en face les Anglais qui eux sont en rouge avec le lion qui rappelle le lion de Normandie, hein, où on retrouve notamment sur une célèbre marque de camembert, comme quoi les aspects militaires peuvent aussi se retrouver dans la publicité aujourd'hui. Castillon, la bataille de Castillon, maintenant la ville s'appelle Castillon la bataille, qu'est-ce qui a permis aux Français de l'emporter comme ça et de renverser le feu anglais?
Alors, si vous le permettez, je vais partir de votre petit clin d'œil au vin, puisque comme vous le savez, après la bataille de Patay, donc les troupes royales continuent d'investir les derniers domaines anglais, notamment la Guyenne, et en cette période du mois de juillet, les édiles de Bordeaux appellent à l'aide les Anglais, même s'ils mettent d'ailleurs sur pied eux-mêmes une petite armée, parce que les Français ravagent la région et ils craignent pour leurs vignes. Et comme la période des vendanges se prépare, donc ils demandent à ce que les Anglais puissent repousser les troupes françaises pour qu'ils puissent en effet procéder à la récolte et reprendre un petit peu de sécurité dans la région. Donc John Talbot intervient avec quelques milliers d'hommes. Il est ensuite d'ailleurs renforcé, donc il intervient avec 5 000 hommes. Armée qui sera renforcée d'ailleurs par son fils avec 2 000 combattants. Lui-même est renforcé par un certain nombre d'unités gasconnes. Et l'idée est bien d'empêcher Jacques de Chabannes, et son armée, environ 5 000 Français, de pouvoir continuer leurs exactions en Guyenne, donc de reprendre un peu, je dirais entre guillemets, de liberté d'action. John Talbot est acclamé à son arrivée à Bordeaux, tout le monde connaît le vieux guerrier, et il ne fait de doute pour personne que les Anglais et leurs unités, leurs alliés gascons, vont rapidement écarter la menace française, les repousser vers le nord. Si ce n'est que Charles VII a pris soin, progressivement, à l'instigation de Jean et Gaspard Bureau, d'ailleurs de tête, je crois que Jean Bureau a été un des édiles de la ville de Bordeaux, d'ailleurs. Donc il a doté avec ses deux frères, qui sont considérés comme un peu les pères de l'artillerie française, donc doté de moyens en termes de bouche à feu relativement conséquents. Alors ce n'est pas l'artillerie telle qu'on peut l'imaginer aujourd'hui, hein. Il y a la fabrication d'une pièce d'artillerie est assez artisanale, donc on a à peu près de tous les calibres qui vont s'exprimer, et les Français amènent tout simplement, canalise, là encore une fois, les Anglais dans une zone que eux-mêmes ont d'ailleurs bien valorisée, puisqu'ils ont créé, ils ont mis en place un fossé de 5 mètres entre eux et les Anglais. Ils ont mis en place leur artillerie, ils ont mis en place des archers qui vont harceler les Anglais pour les amener progressivement dans ce qu'aujourd'hui nous appelons de manière un peu caricaturale un sac à feu, ou c'est-à-dire une zone circonscrite dans laquelle on est à peu près sûr de toucher l'adversaire, dans laquelle l'adversaire sera obligé de se positionner, il ne pourra pas déborder, ou en tout cas très difficilement. Et John Talbot, quand même poussé par ses alliés qui veulent qu'on aboutisse régulièrement, eh bien contrairement à son habitude, il arrive sur le terrain, il voit bien évidemment une situation dont il devine qu'elle ne lui sera pas forcément favorable, mais poussé par ses alliés d'en finir vite et d'aller chercher cette bataille décisive dont nous parlions antérieurement, eh bien, lance sa cavalerie, c'est une forme de, si vous voulez, de Crécy ou d'Azincourt inversé, lance sa cavalerie contre la position, les positions françaises qui sont bien préparées. Vous parlez d'un fossé, mais il y a aussi la mise en place de pieux. Et lorsqu'ils arrivent très serrés, en passant par le sud et en montant vers le nord, face à cette infanterie française qu'il compte balayer, cette artillerie qu'il compte balayer, eh bien en fait, ils sont taillés en pièces et hachés par ces pièces d'artillerie. Et la cavalerie française, suite à cette panique indescriptible, eh bien, repart à l'assaut. Et d'aucuns considèrent que c'est à l'occasion de ce de cette charge de la cavalerie française face à un ennemi forcément paniqué, désorganisé, diminué, que John Talbot meurt d'un coup de lance. Son fils mourra lui-même aussi d'ailleurs pendant cette bataille.
Eh bien, merci beaucoup, Gilles Labret, d'avoir évoqué cette guerre au Moyen-Âge. Je rappelle votre ouvrage qui est paru aux éditions Pierre de Taillac, Le Moyen-Âge en 7 batailles, que vous avez d'ailleurs coécrit avec Hugues Perrault. Et puis, nos auditeurs peuvent retrouver dans d'autres podcasts, à la fois sur des livres de Pierre de Taillac, notamment une émission sur la guerre en montagne, et puis également un ouvrage sur les guerres urbaines. Donc, merci pour votre fidélité à nos émissions, et je vous retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast.